Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui voyage au pays des inventions. Son territoire à elle, ce sont les algorithmes. Éminente scientifique, classée par le magazine Forbes comme l'une des 40 Françaises les plus influentes dans le monde, Aurélie Jean est également entrepreneuse au pays de l'intelligence artificielle.
Les robots, c'est le mal.
Quoi ?
Monde Ouest, Terminator, la serveuse complètement folle des Jetsons. Ça ne suffit pas comme preuve scientifique.
Contrairement au père de Malcolm, le petit génie dans la série du même nom, Aurélie Jean, elle, ne croit pas au pouvoir malfaisant des robots. Comme Albert Einstein, elle pense que si la science est un outil puissant, l'usage qu'on en fait dépend avant tout de l'homme. Ni technophile, ni technophobe, Aurélie Jean se veut avant tout techno-réaliste. Son message, intéressez-vous au numérique avant qu'il ne s'intéresse à vous. L'a-t-elle inventé cet oncle qu'elle entreprend de nous décrire dans son premier roman ? Un personnage tout à la fois pitoyable, burlesque et attachant qui prend souvent les contours d'un animal, comme dans la métamorphose de Franz Kafka.
Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveille, transformé dans son lit en une véritable vermine.
Comme chez Kafka, le portrait de cet oncle, aux proportions anormales, aux manies bizarres et à l'hygiène douteuse, est aussi celui d'une famille et d'une époque biscornue. L'autrice franco-suisse Rebecca Gisler est notre deuxième invitée ce soir.
France Inter. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
Des chiffres, des lettres et des femmes inspirantes au programme d'un nouveau monde ce soir sur France Inter. Keniek, dite Cassidy, revient avec son deuxième album, Les gens heureux, en partenariat avec France Inter. On l'avait reçu ici, dans Un Monde Nouveau, le 22 juillet dernier, des mélodies pop, libres et sincères, et ce titre souterrain qui met en lumière une cause qui nous est chère, l'amour pour tous. Une scientifique au pays des algorithmes, un monde mystérieux pour le commun des mortels. Mais on a tort de ne pas s'y intéresser. Comprendre, dit-elle, c'est le meilleur moyen de ne pas se laisser dominer par la machine. Docteur en sciences, entrepreneuse et ancienne chercheuse au MIT, le prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, elle est l'une de nos plus brillantes chercheuses, encore classée cette année par le magazine Forbes comme l'une des 40 Françaises les plus influentes dans le monde. Et elle est avec nous ce soir depuis les États-Unis où elle est installée depuis une dizaine d'années. Bonsoir Aurélie Jean.
Bonsoir Sonia.
Vous êtes sans doute l'une des meilleures représentantes, Aurélie Jean, de ce monde nouveau qu'on tente de décrypter chaque soir de l'été sur France Inter. Vous avez publié plusieurs ouvrages, De l'autre côté de la machine, Voyage au pays des algorithmes, paru en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Le dernier, L'apprentissage fait la force, est disponible en ligne. Et le prochain, il sortira au mois d'octobre, Les algorithmes font-ils la loi, toujours aux éditions de l'Observatoire. Vous prenez régulièrement la plume dans la presse française également, chez nos confrères du Point ou de l'Opinion, pour tenter de nous éclairer sur les enjeux de ces technologies numériques qui font aujourd'hui partie de notre quotidien et que l'on retrouve dans le pass sanitaire, tant décrié par une partie de la population française, certes minoritaire, mais assez bruyante depuis le début de l'été. Qu'en pensez-vous, Aurélie Jean ? Le pass sanitaire est-il une menace pour nos libertés ?
Écoutez, il y a plusieurs sujets vis-à-vis du pass sanitaire. Il y a le sujet des libertés individuelles. Et c'est vrai que, comme je l'avais écrit, j'avais pris la plume dans l'Opinion pour expliquer en fait qu'il n'y a pas d'atteinte aux libertés individuelles, en tout cas me concernant, et que c'est davantage un acte individuel pour le bien collectif et pour permettre aux uns et aux autres en fait de pouvoir vivre normalement et en tout cas d'éviter que le virus se propage et donc mute, etc., etc. Après, il y a la question technique que j'ai beaucoup vu aussi, à savoir que vu qu'il y a un QR code que l'on scanne, est-ce qu'on va du coup tracer les gens ? Je pense encore une fois, c'est voir le mal dans quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, les gens, lorsqu'ils vont scanner leur passe Navigo, lorsqu'ils prennent les transports en commun en région parisienne, n'ont pas peur d'être tracés. Donc il y a aussi, et puis c'est aussi une mesure temporaire. Donc il y a beaucoup de sujets qui se mêlent et il y a beaucoup d'amalgames. Et donc il faut essayer de sortir un peu de ce brouillard pour éclairer le débat concrètement.
Vous naviguez des deux côtés de l'Atlantique depuis plusieurs années. Vous connaissez bien nos deux pays. Est-ce que le débat se pose dans les mêmes termes en France et aux États-Unis?
Bah écoutez, c'est intéressant. Alors moi, je suis à Los Angeles, donc c'est vrai que je ne suis pas... C'est difficile de parler pour les États-Unis en général, mais je peux parler de Los Angeles et de la Californie. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, là, on oblige le personnel hospitalier, le personnel soignant à être vacciné. Moi, quand j'étais à Los Angeles en mai, on avait une majorité massive des plus de 16 ans qui étaient vaccinés, avec tous les shots, bien évidemment. Et donc, ici, je pense que la question, il y a vraiment un pragmatisme, en fait, chez les Américains, où on est dans le pays des libertés, où les gens défendent leur liberté individuelle avec une certaine force, mais ont un certain pragmatisme parce qu'ils savent qu'en fait leurs libertés ne sont pas mises en danger parce qu'on exige, parce qu'on demande qu'il y ait une preuve, soit d'un test ou d'un vaccin pour accéder à un endroit.
Est-ce que d'une manière générale, cette crise sanitaire, elle a révélé toute l'étendue de notre inculture scientifique ?
Bah écoutez, je pense que vous avez raison. Et l'inculture scientifique, autant de tout le monde, mais aussi de nos dirigeants politiques. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fait un peu peur, en fait, au cours de cette crise qu'on est encore en train de vivre, d'ailleurs, Sonia, c'est que les gens sont très méfiants envers la science. Ont une culture scientifique qui est très pauvre, mais ça, c'est pas nouveau. Mais on en a vu les conséquences durant cette crise, à savoir que les gens ont cru tout et n'importe quoi, que certains médias ont dit tout et n'importe quoi, ont invité des gens qui ont dit tout et n'importe quoi. Donc il y a aussi besoin d'une grille de lecture pour aller voir qui à qui parler et quand. Et puis de nos dirigeants politiques où il y a eu une méconnaissance scientifique. Et donc ça démontre qu'il y a encore un énorme travail à faire. Et c'est notre devoir, pour ne pas dire nos obligations, à nous, scientifiques, ingénieurs, de parler de ce qu'on fait, d'expliquer. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ont fait, en tout cas en France, qui ont expliqué comment un virus pouvait muter, ont expliqué ce qu'était un virus, ont expliqué ce qu'était la vaccination, etc., etc. Et je pense qu'on peut les remercier parce que c'est un travail pédagogique nécessaire pour éclairer les gens.
Et expliquer aussi que la mise au point de ce vaccin en un temps record, par exemple, eh bien c'est grâce aussi aux algorithmes.
Exactement. Et par exemple, c'est un très bon point parce que les gens ont dit beaucoup, bah oui, mais les vaccins ont quand même été développés très rapidement. Il faut savoir que les algorithmes ont, et ça a très peu été communiquées, mais ont beaucoup aidé dans cette crise et ont aidé en l'occurrence à développer des vaccins, à accélérer en tout cas le développement, puisqu'en fait, alors moi c'est pas du tout mon domaine, hein, je suis pas du tout médecin, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait lorsqu'on développe un vaccin, on doit développer en fait certains agents, certaines, on doit trouver une protéine qui puisse transporter l'agent qui va ensuite atteindre la cellule, etc., etc., pour justement construire le système immunitaire de l'individu en question, et que pour ça, en fait, on peut faire des simulations numériques, dont des simulations sur ordinateur, pour aller présélectionner un ensemble de protéines, et que donc on a pu, grâce aux simulations numériques, aller beaucoup plus vite. Et c'est déjà le cas aussi pour lorsqu'on veut développer des médicaments, lorsqu'on veut développer des molécules, on peut par la simulation numérique en fait présélectionner et du coup aller beaucoup plus vite au stade d'expérimentation.
Cette inculture scientifique, elle se traduit aussi par une méconnaissance profonde chez une grande partie de la population du fonctionnement de ces algorithmes qui restent en grande partie, pour beaucoup d'entre nous, obscurs. Or, vous êtes vraiment convaincu que la culture numérique, elle est d'utilité publique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre absolument en tant que citoyen sur le fonctionnement de ces algorithmes ?
Tout d'abord, elle est d'utilité publique parce qu'en fait, on interagit quotidiennement, même sans le réaliser, sans le savoir, avec des algorithmes. Donc, c'est important de comprendre comment ils fonctionnent, un minimum. Et quand on dit comprendre comment ils fonctionnent, ça ne veut pas dire comprendre les mathématiques sous-jacentes, ça ne veut pas dire comprendre l'ensemble des données sur lesquelles ils ont été entraînés ou calibrés, mais ça va être de comprendre. Vous savez, c'est assez simple. Il faut comprendre ce qu'est un algorithme et comprendre ce qu'est une data, une donnée. Et à partir de là, essayer de comprendre quelle est notre position, quel rôle on peut avoir par rapport à ces algorithmes et ces données. Et du coup, reprendre un peu notre posture vis-à-vis des outils comme par exemple les réseaux sociaux. C'est à ça que les gens pensent automatiquement. Hein, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, de par les algorithmes qui tournent sur les réseaux sociaux, comme ce qu'on appelle les algorithmes de catégorisation, qui vont classer les utilisateurs en fonction de similarités statistiques dans leur comportement sur le réseau, ces classes vont permettre de suggérer du contenu aux utilisateurs. Et donc, on peut être enfermé dans ce qu'on appelle une bulle d'opinion et d'observation. Et ça, en fait, si les gens comprennent comment ça fonctionne, ils peuvent du coup utiliser différemment les outils. Par exemple, moi, je vais suivre des comptes avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord ou avec lesquels je n'ai aucune sensibilité émotionnelle ou politique, mais ça me permet en fait de brouiller les pistes pour avoir du contenu qui soit pas forcément le contenu des gens qui me ressemblent.
Alors, il y a beaucoup de fantasmes et de craintes autour d'un monde qui serait dirigé par l'intelligence artificielle et par des robots, mais la principale conséquence à court terme, elle concernera et concerne déjà le marché du travail avec des bouleversements à venir dont on peine sans doute encore à mesurer l'ampleur.
On commence à s'inquiéter que les robots de plus en plus intelligents prennent un jour le pouvoir et réduisent les humains en esclaves. Mais les problèmes vont commencer bien plus tôt, et les enjeux sont avant tout économiques. En 2013, des chercheurs de l'université d'Oxford ont fait une très longue liste avec plein de métiers. Ils ont fait une typologie des tâches qu'il faut combiner pour assurer tous ces métiers, puis ils ont évalué les chances que ces tâches soient automatisées. Résultat, un quart des professions ont plus de 90% de chances d'être remplacées par des robots. Si vous êtes chirurgien, chorégraphe, psychologue ou instituteur, ça devrait aller. En revanche, si vous êtes télémarketeur, couturier ou réparateur de montres, il va falloir songer à changer de métier.
Un quart des métiers qui seraient voués à disparaître, il y a de quoi s'inquiéter, non ?
Je pense qu'il y a un gros effet dramatique autour de ce sujet, parce qu'en fait, on n'explique pas clairement les tenants et les aboutissants de réels techniques et humains. En fait, vous avez, pour vous compreniez, la personne dans le reportage disait les robots deviennent de plus en plus intelligents.
Il s'agit d'une vidéo réalisée par nos confrères du Monde en 2018, hein, je le précise.
Merci. Et en fait, de dire ça, c'est déjà biaisé le débat et la discussion. Pourquoi ? Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence analytique, donc celle que maîtrisent les machines, les robots, pour produire des chaînes de une séquence d'opérations analytiquement orientées. On a l'intelligence émotionnelle et créative, et on a l'intelligence de situation. Les machines ne maîtrisent que l'intelligence analytique et ne maîtriseront pas l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence de situation, ou à certains niveaux pour la situation. Et donc, partant de ce principe, c'est comprendre la différence entre l'humain et la machine pour automatiser les tâches qui devraient être automatisables et garder pour l'humain ce qu'il sait faire, ce que la machine ne sera pas capable de faire. Cela étant dit, même si une machine est capable de faire une tâche, parfois il n'est pas préférable qu'elle le fasse, mais que l'humain le fasse. Pourquoi ? Parce que l'humain va apporter une contribution que la machine n'apporte pas. Un exemple, il y a quelques années un test dans un hôtel au Japon, je crois, où en fait ils avaient mis des robots pour accueillir les gens à l'hôtel. Ça a été une catastrophe, alors que le Japon est quand même un pays très où la culture du robot est ancrée hein, chez eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils sont revenus à des humains. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez fait un voyage relativement long et que vous arrivez à l'hôtel, vous avez besoin d'un humain, vous avez besoin d'un contact humain avant de pouvoir récupérer la clé de votre chambre. Donc en fait, oui, des métiers disparaîtront, des métiers aussi souvent pénibles. Après, d'autres métiers apparaîtront. La différence entre aujourd'hui et il y a un siècle, il y a eu des changements profonds, et entre autres aussi avec la révolution industrielle, des changements profonds dans les métiers. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Petit détail quand même, même s'il y a un quart des métiers qui vont disparaître, il y a eu une étude du Forum économique mondial, je crois, il y a quelques années, qui disait que aujourd'hui, il y a 65% des enfants qui auront un métier qui n'existe pas encore. Donc en fait, je pense qu'il y a une grosse transformation de la morphologie des métiers. Et de ce qu'on va faire. Et petit détail aussi, je serais pas étonnée qu'on travaille moins dans le futur pour le même salaire. Hein, faut pas. On travaille moins parce que si vous regardez, enfin, je sais pas pour vous, Sonia, mais quand on regarde, par exemple, par rapport à nos grands-parents ou arrière-grands-parents, on travaille moins que en moyenne, j'entends. Donc voilà, je pense qu'il y a des transformations morphologiques de la société, des différents jobs qui va intervenir et qu'il faut pas être trop dramatique, faut pas faire peur, il faut plutôt essayer d'expliquer, de trouver la vraie valeur ajoutée de l'humain pour justement valoriser les hommes et les femmes dans leur métier.
Vous évoluez dans un monde encore aujourd'hui très masculin, Aurélie Jean. Vous œuvrez d'ailleurs depuis plusieurs années à la féminisation, à la diversification du domaine des sciences et de la tech. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à des jeunes filles qui hésiteraient quant à leur future orientation?
Merci. Merci, je suis vraiment contente de dire ça en heure de grande écoute sur France Inter. Donc, trois choses.
Allez-y.
Merci. Moi, écoutez, je vais dire aux filles, et puis aux garçons, mais aux filles, parce que comme je l'avais dit, hein, c'est un milieu très masculin, plein de choses. La première, c'est que si vous allez dans ce milieu, dans le milieu des sciences numériques, de l'algorithmique, de l'IA, peu importe le mot que vous mettiez derrière ça, vous allez faire un métier qui est extrêmement stimulant intellectuellement, vous allez apprendre toute votre vie. Deuxièmement, c'est un métier grâce auquel vous allez pouvoir avoir de l'impact. C'est-à-dire, vous allez pouvoir laisser votre empreinte dans ce monde, en modélisant le monde, en créant des outils pour les autres, en taclant des problèmes extrêmement compliqués, à fort impact pour la société, pour l'humain, pour l'écologie, etc., etc. Vous avez moyen de changer le monde. Et troisièmement, parce que j'en parle, parce qu'il faut en parler, vous allez bien gagner votre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez d'argent et on n'en parle pas, surtout pas aux filles. Et moi, c'est ce que je dis aux femmes, aux filles, vous allez très bien gagner votre vie et vous allez pouvoir avoir une indépendance donc financière et intellectuelle en même temps. Et c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse avoir aujourd'hui pour une femme. Et voilà, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan et ces femmes qui ont leur liberté, en fait, fortement menacée. Je pense que voilà, c'est un message fort à envoyer aux filles de notre pays.
Merci de l'avoir livré ce soir sur l'antenne de France Inter aux religions. Dernière question, quel est selon vous l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Alors, c'est pas forcément. Il y a un objet réalisable, un objet qui ne l'est pas. Enfin, qui ne l'est pas. Si, pas
encore.
Les gens travaillent dessus, pas encore. Voilà. Donc, il y a la téléportation. Alors, c'est très égoïste, c'est parce que voilà, vivant dans deux pays, principalement aux États-Unis, mais vivant aussi en France, la téléportation serait extraordinaire. Pour moi, en tout cas, aussi, je pense pour l'écologie, en considérant que la téléportation ne consomme pas trop de CO2 et de temps de calcul. Et puis, un autre outil, qui est un outil que j'ai développé, que j'aimerais beaucoup voir démocratisé dans le futur, c'est un outil qui est l'issue de, c'est le résultat d'un petit programme de recherche que j'ai fait avec des collaborateurs français et israéliens. Et en fait, on a créé une entreprise à l'issue de ça, DeepX, qui est basée à Tel Aviv. Et on a développé en fait une technologie algorithmique d'IA pour aller détecter les signaux faibles d'un cancer du sein, ce qu'on appelle la signature tumorale. Entre 2 et 3 ans avant qu'on puisse la voir sur une mammographie. Donc ça a des répercussions fortes, ça a un impact fort. Je parlais d'impact tout à l'heure pour parler aux filles. En fait, grâce à cet outil, on pourrait éviter en fait des traitements lourds du cancer du sein, on pourrait éviter aussi la mastectomie, on pourrait éviter beaucoup de choses qui permettraient à ces femmes qui ont un cancer du sein de vivre normalement, de ne pas passer à travers des traitements lourds, pénibles, fatigants et qui ont un impact aussi sur leur vie de couple, sur leur vie de famille, leur vie personnelle. Donc voilà, donc on a développé cet outil-là qui va littéralement chercher des signaux faibles pour justement détecter ce qu'on appelle une signature tumorale pour essayer de détecter le cancer le plus tôt possible et de le traiter le plus tôt possible pour éviter de passer à travers des traitements lourds et pénibles.
Merci beaucoup Aurélie Jean et bravo. Je rappelle donc le titre de votre prochain ouvrage qui sort en octobre, Les algorithmes font-ils la loi, aux éditions de l'Observatoire.
Look at me, I went to school and I got a degree. All my friends
Flegmatique du duo britannique Wet Leg et son tout premier single Chaise Longue en partenariat avec France Inter.
Un monde nouveau. Sonia Quironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Émilie Recher. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Sonia.
Vous êtes chef de rubrique santé à The Conversation France et avec Emmanuel Vibert. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Sonia.
Du magazine Oui Demain. Qui n'a jamais eu envie d'un petit coup de pouce, une potion magique, un implant pour booster nos capacités cognitives? Certains, Émilie Recher, promettent des miracles. Qu'en pensent les chercheurs? Le fantasme peut-il devenir réalité?
Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mouvement transhumaniste, en tout cas, s'y emploie. En avril dernier, d'ailleurs, Elon Musk postait sur les réseaux sociaux la vidéo d'un singe jouant à un jeu vidéo, le tout sans les mains, le cerveau directement branché à sa console. Bref, un fantasme de gamer. La prouesse, en fait, est relative, puisque les premiers essais du genre remontent à un demi-siècle. Mais l'image est emblématique de ce courant de pensée qui voit le corps comme une machine, soit réparable, modifiable, améliorable, cerveau compris.
Alors, réparer un membre blessé avec une prothèse, d'accord, on voit l'idée, mais pour le cerveau, de quoi peut-il s'agir?
C'est vrai qu'a priori, c'est moins évident. Et doter le cerveau de capacités nouvelles demande toujours une chirurgie très lourde, puisqu'on va venir lui greffer des implants et des interfaces pour lui permettre de communiquer avec des objets, par exemple. Alors, il existe déjà des technologies qui lui permettent de contrôler des prothèses, vous parliez de membres, ou encore de recevoir des perceptions envoyées par des organes artificiels. On pense notamment aux implants cochléaires, aux rétines artificielles, ce genre de choses. Mais il y a aussi des prototypes qui permettent à des personnes atteintes de paralysie sévère de communiquer à nouveau, de refaire leurs courses en ligne. C'est très concret. Et puis, il y a des cas, on va dire, plus étonnants. Le plus fameux, c'est celui de Neil Arbison. En fait, c'est un artiste britannique qui est atteint d'achromatopsie. En gros, il voit le monde en noir et blanc. Eh bien, il s'est fait greffer dans le crâne une antenne qui capte les couleurs pour lui sous la forme de son. Et il considère que cet appendice qui lui sort du crâne, comme faisant partie de son corps, et il se définit donc comme un cyborg, soit un mélange homme-machine, le premier du genre.
Ah oui, tout de même, hein, mais n'est-ce pas un peu extrême, Émilie? C'est une intervention lourde pour un intérêt finalement assez limité, passé la performance artistique.
Et vous avez raison, ces interventions ne sont jamais sans danger. Passé l'opération même, il y a ainsi toujours des risques d'hémorragie, d'abcès, d'infection, ce genre de choses. C'est pourquoi elles sont aujourd'hui limitées à un public très restreint et à des usages médicaux très spécifiques tels que ceux qu'on a vus. On comprend alors bien le bénéfice pour ces personnes. On le comprend moins pour des gens en bonne santé. Bon, alors honnêtement, les transhumanistes restent très discrets sur ce point-là. Il faut donc toujours garder en tête l'avertissement de la neurologue Catherine Vidal, qui nous rappelle que laisser croire qu'il existe une continuité entre réparer et améliorer le corps est un leurre.
Et alors, mettons que demain les difficultés techniques soient résolues, quelles conséquences sur nous, Émilie, quand on voit comment notre vie a changé rien qu'avec les téléphones portables?
Clairement, les questions sont nombreuses. Dans un futur où les implants seraient devenus, on va dire, communs ou presque, on aurait des individus implantés et d'autres qui ne le seraient pas. Ça poserait donc forcément des questions sociales, éthiques, de santé publique, mais aussi biologiques et philosophiques. Je ne vous cache pas que la discussion est en cours et que les avis sont très divergents.
Vaste question qui fait quand même un petit peu froid dans le dos. Merci beaucoup, Émilie Rocher. Emmanuel Vibert, vous, ce soir, vous nous parlez d'un fleuve, un simple fleuve, pas amélioré, mais qui vient de se voir attribuer des droits en tant que fleuve. C'est une première en France et ça se passe en Corse. Il s'agit du fleuve Tavignano.
Oui, Sonia, vous imaginez une rivière devant les tribunaux pour défendre son droit à ne pas être polluée? Ça vous paraît farfelu?
Oui.
C'est pourtant bien ce qu'espèrent obtenir les citoyens qui se mobilisent pour protéger le fleuve Tavignano. Ce cours d'eau est un écosystème précieux. Il est composé de zones humides, d'affluents, il abrite des espèces rares, comme la tortue d'Hermann, et il fournit de l'eau potable à une grande partie des habitants de la côte orientale de l'île. Or, dans l'un des méandres du Tavignano, en Haute-Corse, il y a un projet de centre d'enfouissement de déchets. Il s'agit d'enterrer des déchets ménagers et des déchets amiantés, donc polluants. En 2016, le collectif Tavignano IU s'est créé en opposition à ce centre d'enfouissement. Des citoyens se sont battus pendant 5 ans devant les tribunaux pour stopper le projet. Sans succès. Ils ont épuisé tous les recours. Mais ce collectif ne laisse pas tomber son fleuve pour autant. La justice ne leur a pas donné raison. Qu'à cela ne tienne, ils ont carrément décidé de changer le droit. Pour y parvenir, ils ont trouvé des alliés de choix. La jury spécialiste des droits de la nature, Valérie Cabanès, et l'association Notre Affaire à tous, celle-là même qui a attaqué l'État en justice pour inaction climatique. Ils ont rallié à leur cause 2 autres associations, Humani et Terre de Liens Corsica. Et le 29 juillet dernier, cette bande de citoyens a publié une déclaration des droits du fleuve Tavignano. On peut y lire que le cours d'eau est une entité vivante, qu'il a notamment le droit au respect de ses cycles naturels, le droit de ne pas être pollué, et même le droit d'ester en justice.
Mais une déclaration de citoyen, on est d'accord, ça n'a pas de valeur juridique.
Certes, Sonia. Cette déclaration est juste un premier pas. Pour qu'elle devienne contraignante, le collectif travaille à rallier à sa cause des élus locaux. Il pourrait par exemple inclure la déclaration dans un plan local d'urbanisme. Le collectif espère aussi la tenue d'un référendum local pour approuver leur texte. En attendant, pour les soutenir, on peut signer cette déclaration des droits sur leur site tavignano.corsica. Et il faut prendre au sérieux cette démarche, parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement mondial. Dans plusieurs pays, on a très officiellement donné des droits à la nature. Depuis 2008, en Équateur, la Pachamama, la terre-mère, est protégée par la Constitution. Et des dizaines de procès ont été intentés en son nom. En 2017, en Nouvelle-Zélande, le Parlement a doté le fleuve Whanganui d'une personnalité juridique. Il y a des exemples aussi aux États-Unis, au Canada, en Colombie, en Inde. Ce mouvement atteint désormais la France. En 2019, l'écrivain Camille de Toledo a lancé les auditions pour un Parlement de Loire avec le pôle art et urbanisme à Tours. Pendant 1 an et demi, juristes, mais aussi philosophes, artistes, ont débattu de la possibilité de donner une personnalité juridique à la Loire. D'autres collectifs se sont formés en France pour réfléchir à la façon concrète dont on peut représenter juridiquement le Rhône ou encore la Seine.
Alors justement, concrètement, comment fait-on un fleuve, a priori ça ne parle pas, comment peut-il être représenté devant un tribunal?
Si on suit l'exemple du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, on peut nommer des gardiens. Des personnes qui adoptent le point de vue de l'écosystème devant les tribunaux ou d'autres institutions. Le droit n'est pas figé. Or, on est aujourd'hui en train de prendre pleinement conscience de notre interdépendance avec le vivant. On réalise que les humains ne sont pas séparés de la nature. Et donner la personnalité juridique à des écosystèmes, comme on la donne à des humains, à des entreprises, à des associations, c'est transcrire dans le droit cette vision du monde.
Le droit n'est jamais figé, c'est bon de le rappeler. Il est là aussi pour accompagner les évolutions du monde. Merci Emmanuel Vibert. Je rappelle que vous êtes journaliste à la revue trimestrielle Oui Demain, dont le prochain numéro sort à la fin du mois, avec notamment une interview de Camille de Toledo, dont vous nous parliez sur le Parlement de la Loire et les droits de la nature. Et merci à vous, Émilie Rocher, du site The Conversation France. C'est une des bonnes surprises de la rentrée littéraire. Doncle apparaître aux éditions Verdier est le premier roman d'une jeune autrice dont vous entendrez forcément parler dans Le Monde Nouveau, Rebecca Gisler. Pour cette franco-suisse née à Zurich il y a 30 ans, le français a longtemps été une langue familiale et plutôt orale. Ses premiers textes, elle les écrit en allemand pendant ses études à l'Institut littéraire suisse, puis elle vient s'installer à Paris en 2015 pour poursuivre ses études et perfectionner son français à l'écrit. Quand on voit voit le résultat. Rebecca Gisler, bonsoir. On se dit que bonsoir. Vous avez bien bossé. Vous publiez donc ce roman d'oncle qui figure dans la sélection du prix Stanislas du premier roman. On va en parler. Mais d'abord, vous êtes aussi traductrice et j'ai lu dans votre biographie que vous exerciez, comme votre narratrice d'ailleurs, le travail de traductrice pour une animalerie alors que vous êtes allergique aux chats. C'est vrai ça?
Ouais, exactement, oui. Exactement, oui, c'est mon travail alimentaire, donc, hein, qui est en fait pas si inintéressant que ça, parce que même comme on peut le voir dans le texte, il m'a offert un certain point de vue assez détaillé sur tout ce qui est du genre de la nourriture, des jouets pour animaux, et voilà, c'est un très grand sujet.
Et cela explique peut-être cette manière de décrire cet oncle dans le roman comme un animal, vous allez nous le dire dans un instant. Donc, le premier roman de Rebecca Gisler sort le 26 août. On en parle ce soir avec son autrice dans Un Monde Nouveau sur France Inter.
Tous les soirs sans fin, je traîne sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin, je me prenais pour Ben Hur en conduisant d'une main, mais je t'ai rencontré et puis tout a changé.
Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras. Se promenait en ville, c'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me placer. Même dans l'obscurité, je te revois encore.
Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien compris.
J'ai longtemps cherché la nuit à te remplacer, et pour quelques heures parfois, c'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais le soleil décline sur ma mémoire en ruine.
Tous les soirs sans fin, un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier. Mais dans mes rêves glacés, je te revois encore. Oh, ouais, ça. Elsa, tu es toujours là. Elsa, Elsa.
La Dolce Vita, le chanteur Christophe qui reprenait en 2019 un de ses tubes avec Julien Doré dans son dernier album de duo Christophe etc. volume 2, sorti un an avant la disparition du chanteur en 2020. Christophe, tu nous manques.
France Inter. Un monde nouveau.
Donc boucle, c'est donc le titre du roman, du premier roman de Rebecca Gisler, jeune autrice franco-suisse, qui est notre invitée ce soir. Un premier roman inspiré, étrangement drôle, ou drôlement étrange, dans lequel vous entreprenez, Rebecca Gisler, de faire donc le portrait de cet oncle avec lequel la narratrice et son frère se retrouvent enfermés dans la maison familiale en Bretagne. On comprend que c'est pendant le confinement, même si le contexte n'est évoqué qu'indirectement. Un homme aux jambes trop courtes et asymétriques, dont le ventre est tellement gros qu'il a l'air séparé du reste de son corps. Un homme à l'hygiène, il faut le dire, plus que douteuse. Un solitaire aux habitudes et aux manies bizarres, voire carrément répugnantes, pour lequel ses neveux éprouvent pourtant une certaine tendresse. Il leur a appris beaucoup de choses quand ils étaient petits, arracher des bulots, les avaler tout cru. Ils ont partagé beaucoup de bons moments pendant les vacances, joué à se déguiser. Et puis, il est devenu un personnage étrange que l'on observe du coin de l'œil comme un ogre qu'on étudie. Il existe, cet oncle, Rebecca Gisler ?
Alors, ce serait vraiment mentir de dire que j'ai tout inventé. Le texte est en partie constitué de souvenirs et d'expériences personnelles, bien sûr. Mais je pense que c'est le personnage de l'oncle et son côté quelque part un peu insaisissable, en fait, m'a permis de prendre d'assez grandes libertés face à la réalité. Donc voilà, alors c'est toujours un peu, on développe en fait, c'est une idée de base qui est développée après coup.
Et pourquoi alors ce titre d'oncle ? Pourquoi ce D apostrophe ?
Oui, alors ce D apostrophe, hein, d'oncle déjà d'une part parce que l'oncle c'est le personnage principal, et après le D apostrophe qui paraît comme une incorrection peut-être ou une sorte d'anomalie, donc et reflète aussi un peu le côté boiteux de cet oncle, le côté un peu anormal de cet oncle aussi, et aussi également l'incorrection que moi, enfin le rapport un peu incorrect que je ressens moi-même par rapport à ma langue française.
Alors oui, je le disais tout à l'heure, vous êtes née à Zurich, vous avez fait vos études là-bas, vos premiers textes, vous les avez écrits en allemand. Voilà. Et puis, vous avez décidé de venir en France pour perfectionner votre français et pour écrire en français. Pourquoi cette envie d'écrire en français qui était votre langue maternelle ?
Voilà, très bonne question, pourquoi cette envie ? Mais j'ai entendu parler du master de création littéraire à Paris 8 et puis... déjà à Bienne, qui est en fait un cursus bilingue. Donc, mais moi, j'écrivais que en allemand. J'ai participé à un atelier en français, et j'ai senti comme, en fait, j'avais l'impression qu'avec ce vocabulaire un peu plus limité que celui que j'ai en allemand, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à creuser en fait dans cette manière d'écrire, qui est peut-être un peu plus simple, un peu plus brute, et qui offre quand même ce mélange des deux langues, ce mélange de deux cultures qui sont pas si éloignées, mais quand même il y a deux mondes littéraires différents en fait, et ces influences peuvent offrir énormément à sa propre écriture.
Vous citez dans le roman une nouvelle de Kafka, Le souci du père de famille, où il est question d'une créature indéfinissable nommée Odradek, que le narrateur compare à une sorte de bobine de fil plate qui s'invite sans raison chez une bonne famille de Prague qui tente désespérément de lui trouver une utilité. On va en écouter tout de suite un extrait.
L'ensemble paraît vide de sens, mais complet dans son genre. On ne saurait d'ailleurs en dire plus long à ce sujet, car Odradek est extraordinairement mobile, on ne peut pas l'attraper. C'est en vain que je me demande ce qu'il deviendra. Peut-il donc mourir ? Il n'est rien qui ne meure sans avoir eu une sorte de but, une sorte d'activité qui l'ont usé, ce n'est pas le cas d'Odradek. Dévalera-t-il encore un jour l'escalier, traînant ses bouts de fil après soi, devant les pieds de mes enfants et des enfants de mes enfants ? Il ne nuit, bien sûr, à personne. Mais l'idée qu'ils doivent me survivre m'est presque douloureuse.
Le souci du père de famille, extrait d'une collection de nouvelles de Franz Kafka intitulée Un médecin de campagne, est paru en 1917. On pense souvent à Kafka quand on lit votre roman, notamment à La Métamorphose, qui raconte l'histoire d'un homme qui se transforme en un monstrueux insecte. Vous l'aviez en tête en écrivant le roman ?
Oui, la question, je pense que c'est comme les sujets comme l'enfance et la métamorphose, sont des sujets que j'ai toujours en tête ou qu'on a souvent en tête. Donc, quand il s'agit d'une sorte de métamorphose vers l'animal ou, mais ici, là, j'ai vraiment plutôt pensé à l'Odradek, à cette nouvelle du souci du père de famille, à cette bobine, à cet objet, en fait, qui vit comme dans une phase intermédiaire entre la chose et l'être vivant et qui n'a pas d'utilité, qui ne s'use pas, qui ne vieillit pas. parce que je trouve que ça dit beaucoup. Et puis en même temps, dans mon livre, j'en parle aussi pour parler des bibelots du supermarché. Oui. Hein, c'est vraiment. Mais aussi, il y a une parallèle ou une, comme peut-être une métaphore un peu plus grande, qui est celle des liens de parenté. En fait, parce que le père, il a peur que cet objet survive à la famille et que après, peut-être les autres doivent s'occuper de cet objet et qui est vraiment un objet. Mais en même temps, je crois qu'il parle même et puis il peut disparaître et réapparaître des mois après. Donc, il est un peu insaisissable. En fait, et c'est ce côté insaisissable qui me fascine, et dans cette nouvelle particulièrement, et qui laisse place à l'imaginaire, parce que on peut pas dire de quoi il s'agit, on ne sait pas qui c'est, en fait. C'est ça qui est fascinant.
Et c'est aussi, ça renvoie aussi à la crainte de la mère, un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est terrorisé à l'idée de devoir s'occuper de ce frère
Exactement.
Qui vieillit.
Exactement. Et je pense que c'est, et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi, enfin, je m'éloigne peut-être un peu de votre question, mais que le lien entre les neveux et l'oncle est un lien beaucoup plus distant et du coup qui laisse beaucoup plus de liberté à interpréter ou cette relation que, par exemple, les liens entre frères et sœurs, où peut-être on peut ressentir plus de responsabilité. En fait, c'est ça que je trouvais aussi intéressant de mentionner ça.
Alors, autre référence à Rebecca Gisler, elle est cinématographique cette fois. Le film Toni Erdmann de la réalisatrice allemande Maren Hadeux, prix de la critique internationale au Festival de Cannes en 2016. L'année de sa sortie, l'histoire d'un homme fantasque habitué à se grimer, qui rend une visite surprise à sa fille, qui est consultante très occupée à Bucarest, pas forcément ravie de voir ce père un peu loufoque débarquer dans sa vie. On écoute un extrait.
Moi, j'ai probablement passé le week-end le plus horrible de toute ma vie.
Oh.
Oui, mon père est venu me rendre visite sur un coup de tête sans prévenir. Il a débarqué de nulle part.
Oui.
Il est arrivé dans mon bureau sous prétexte de m'apporter mon cadeau d'anniversaire, mais en fait, il était en pleine déprime parce que son chien est mort. Chez lui, en plus, il y avait Enver qui était là et qui a voulu que je sorte avec lui et sa femme partout. Et mon père était là à me faire des spaghettis tout en voulant parler avec moi du sens de la vie, de ce que ça peut être. Ah. C'était bizarre.
Ah, c'était ton père?
Oui, mais là, il est rentré.
Alors, il va revenir après dans le film Toni Erdmann, donc sorti en 2016, un film loufoque, drôle et plein de tendresse, comme votre livre. Ça a été une source d'inspiration?
Bah, en fait, après coup, quand j'ai pensé à mes influences cinématographiques, enfin, j'ai vu ce film il y a longtemps, je l'ai vu en allemand aussi, du coup là, c'était bizarre d'entendre en français, mais je trouve que c'est justement une manière très, très tendre et très belle et très absurde de montrer en fait les relations familiales. Parce que c'est le père qui se crée cette sorte de alter ego, en fait, pour aller surprendre sa fille, pour la faire rire, une fille qui est complètement une femme d'affaires très bien organisée. Et du coup, en fait, j'aime bien ce personnage un peu de maître du désordre, en fait, qui vient mettre le désordre et qui vient briser un peu les frontières, peut-être c'est les frontières entre le monde de l'enfance et le monde adulte, qui sont des frontières très perméables. Et puis que aussi également dans mon texte, je dirais par exemple que le frère, par exemple, il a peur de dépasser de cette limite, en fait, de s'adonner un peu aux habitudes de l'oncle, du coup, et la mère aussi d'ailleurs, en fait. J'aime beaucoup en fait cette ambivalence entre l'enfance et l'adulte.
Donc, le premier roman de Rebecca Gisler, ça sort le 26 août. Et je vous propose, Rebecca, si vous en êtes d'accord, oui, bien sûr, de nous en lire tout de suite un extrait ce soir en direct sur France Inter. Vous êtes prête?
Oui.
C'est parti.
En 30 ans de vie solitaire, l'oncle a eu le temps de développer certaines habitudes qui forment à présent le cœur de son existence. Le cœur ou la structure peut-être, la solide armature autour de quoi s'agrège l'accessoire, l'imprévu et tout le reste. Et parmi ces habitudes, il en est qui revêtent d'une importance particulière et vitale. Et ce sont tout naturellement celles qui ont trait à ce que l'oncle appelle son régime de célibataire. À son alimentation donc, laquelle se compose en grande partie de sandwichs à l'andouille engloutis dans le secret de sa chambre. L'oncle se prétend aussi dépositaire de l'immémoriale recette des calamars à l'armoricaine, recette qui consiste en anneaux d'encornés surgelés vaguement cuits dans 2 litres de vin rouge bon marché avec, pour seul assaisonnement, une pincée de poivre. Et je tiens à préciser que les 10 calamars sont un plat de fête, à destination des invités de marque, des nouveaux venus, car l'oncle aime faire la fête aux nouveaux venus, et à ceux qui sont trop polis pour refuser ce qu'on leur offre de si bon cœur. Et quand nous suggérons à l'oncle d'ajouter de l'ail, et d'y aller un peu moins fort avec le vin rouge, et de jeter un œil à la date de péremption des encornés, et aussi de prendre une douche, un peu plus souvent quand même, une vraie douche et pas une simple toilette de chat, non, un bon lavage de fond en comble, l'oncle dit tout simplement non, qu'il ne veut pas, qu'il suit la recette de son père.
Merci beaucoup, merci Rebecca Gisler. Vous possédez donc le talent de l'écriture et de la lecture, et vous aimez d'ailleurs mêler la langue écrite, la langue orale et la langue corporelle, puisque j'ai vu que vous aviez créé des performances avec des danseuses en mêlant la poésie et le mouvement des corps.
Oui, exactement. Bah, en fait, je sais pas si j'aime en général tout mêler comme ça, mais je pense que c'est intéressant, et surtout en fait pour les lectures, parce que le format de lecture a quelque chose d'un peu... je dirais pas un peu, pas démodé peut-être, mais j'aime bien en fait travailler avec d'autres influences et de traduire les textes. Je pense que la traduction, elle passe pas que par la langue, mais aussi justement par le corps. Et dans cette performance que vous mentionnez, c'était vraiment deux danseuses qui ont traduit comme mot à mot les mouvements du texte en fait. Enfin, elles ont dansé le texte, et c'était incroyable de voir comment ça pouvait faire évoluer le texte et la danse en même temps.
On n'a pas encore parlé de votre écriture, Rebecca Gisler, très musicale et aussi presque orale. Vous n'avez pas peur des phrases longues avec des répétitions. Je vais juste me permettre de lire les premières lignes du livre, pas toute la phrase parce qu'effectivement elle est très longue. Une nuit, je me suis réveillée avec la certitude que l'oncle s'était enfui par le trou des toilettes, et alors, poussant la porte des cabinets, j'ai constaté que l'oncle, en effet, s'était échappé par le trou des toilettes.
Oui, alors voilà, ça c'est pas toute la phrase en plus. Si vous dites j'ai pas peur des longues phrases, c'est juste parce que au contraire en fait j'ai peur de faire des phrases que je ne sais pas faire en fait. C'est comme je me dis que si je brise la syntaxe et juste je me permets tout, bah ça peut marcher. Mais si j'essaye de faire des phrases correctes avec un français correct, bah ça peut ne pas marcher. En fait,
ouais, ça marche très bien. Je vous le confirme. Donc votre premier roman, Rebecca Gisler, ça sort le 26 août, donc la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous.
Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission, et les indispensables évidemment, Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. À la technique ce soir, Antoine Cruchon. Un monde nouveau, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain avec le photojournaliste Thomas Dvorak et la rappeuse Tracy Dessa. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Le Téléphone Sonne et Éric Delvaux ce soir. Toutes vos questions sur les crypto-monnaies.